La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Comme cela vous l'a été dit, nous terminons notre semaine de prière, qui a vu cette chapelle dans une autre configuration, puisque nous avons cheminé à travers l'histoire d'un homme bien connu, Jonas. Mais tu peux envoyer la diapo. Vas-y, la première. Jonas, qui nous a animés toute la semaine, parce que Jonas est un personnage ô combien proche de nous, très actuel, contemporain. Voyez tous les mots qui ont pu être utilisés cette semaine durant ce temps de prière, ce temps de partage. Et pour en faire un rapide résumé pour celles et ceux qui n'étaient pas là, Jonas est un disciple qui s'est mis à disposition de Dieu. Jusque-là, formidable. On peut presque applaudir des deux mains. Il s'est formé, il a fait toutes sortes d'ateliers en week-end, voire en semaine. Bref, ce que l'Église a proposé, ce que la Fédération a proposé, voire même Collonges, pourquoi pas. Et puis un jour, Dieu le prend au mot et lui dit « Jonas, puisque tu es disponible, j'ai besoin de toi. Lève-toi et va. » Vous connaissez comme moi la suite, Jonas va aller dans l'autre direction. Non pas parce que la mission est compliquée, mais le texte nous dit qu'il fuit loin de l'Éternel. En fait, c'est son problème, il est avec Dieu, pas avec la mission que celui-ci lui confie. Il va faire son tour de bateau, et ce bateau, nous avons vu qu'il pouvait représenter le microcosme, la mini-société dans laquelle nous sommes. Ça peut être là où nous travaillons, là où nous habitons, là où nous, quelque part, nous vivons. Cette micro-société traverse bien souvent des tempêtes, des moments difficiles, des moments où ils sont secoués, où les gens ne savent plus à quel saint se vouer, si vous me permettez cette expression. Et le texte nous montre que chacun des membres de l'équipage prie son Dieu, sauf un. Notre ami Jonas, qui lui est allé en fond de cale, et qui dort d'un sommeil de juste formidable. Jonas se déconnecte de la société dans laquelle il vit. Et force est de constater de temps à autre que c'est notre expérience aussi. Nous sommes comme des électrons en dehors de la société dans laquelle nous vivons. Mais le capitaine du bateau, vous pouvez dire monsieur le maire, monsieur le député, le responsable au travail, le DRH, ou quiconque avec une responsabilité dans cette micro-société où vous évoluez, vient le réveiller en lui disant « Hé Jonas, tu ne peux pas prier ton Dieu ?» Et de temps à autre, la société nous lance des signaux d'alerte en disant « Mais on a besoin de vous. On a besoin de toi. » Et Jonas ne va pas prier son Dieu. Jonas va leur raconter l'histoire en disant qu'il fuit loin de Dieu et finalement, mieux vaut la mort. Et il est jeté par-dessus le bord. Et la grâce de Dieu se manifeste. La grâce de Dieu se manifeste alors que Jonas fuyait loin de lui. Et ça, c'est formidable. Même si nous prenons nos jambes à notre cou et que nous partons loin de Dieu, Dieu reste présent pour nous faire grâce. Le poisson avale Jonas et lui rend ainsi la vie sauve. Et à l'intérieur de ce poisson, Jonas se rend compte que finalement, peut-être, ça serait bien de retisser la relation avec ce Dieu-là. Et il passe du « il » au « tu », cette relation personnelle, finalement au fond du gouffre, et ça nous a été lu tout à l'heure. Il va s'engager avec Dieu à nouveau et terminer sa belle prière en disant « Waouh, je reconnais que le salut vient de l'Éternel. » Et le voilà sur la plage, notre ami Jonas. Alors qu'il vient de vivre une expérience formidable de salut, de grâce, de bonté manifestée par Dieu, Dieu se révèle une fois de plus à lui et lui dit « Jonas, lève-toi, va à Ninive. » Jonas va à Ninive et fait une déclaration assez sympathique. Si vous remarquez bien, et ça a fait l'occasion d'un vif échange mercredi. Dieu, nous ne savons pas ce qu'il a demandé à Jonas. Nous n'avons pas ses propos dans le texte biblique. Mais Jonas va dire quelque chose de très fort. Vous serez détruits dans 40 jours. Bref, vous mourrez. Ça lui fait presque plaisir à Jonas. Ce n'était pas forcément ce que Dieu souhaitait qu'il dise. Mais le fait est que les gens vont se tourner vers Dieu, le reconnaître comme celui qui sauve, comme celui qui existe et en qui ils peuvent placer leur confiance. Et au lieu de faire une grande fête, un grand culte, une grande joie, Jonas se fâche. Jonas fait la tête. Jonas est irrité parce que ça ne correspond pas à ses plans. Ils auraient dû mourir. D'abord, ils l'avaient annoncé, et deuxièmement, ça leur aurait fait du bien. Et Dieu va interpeller notre ami Jonas, comme il nous interpelle aujourd'hui encore. Est-ce que vous souhaitez la destruction de tous ceux et toutes celles qui sont autour de vous parce qu'ils ne reconnaissent pas le même Dieu que vous, parce qu'ils ne vivent pas selon les mêmes principes auxquels vous avez adhéré, parce qu'ils ne suivent pas les commandements de Dieu? Ou est-ce que vous êtes des facilitateurs de l'amour de Dieu manifesté pour tous? Et Jonas avait besoin de redécouvrir un Dieu différent. Un Dieu qu'il connaissait intellectuellement, puisqu'il donne les bons propos. Et tu peux passer la diapo suivante. Oui, ce Dieu plein d'amour. Mais ce n'est pas le Dieu que Jonas ressentait ici. Et de temps à autre, nous avons besoin d'être libérés par Dieu pour être en phase en nous-mêmes et redécouvrir un Dieu qui va être un Dieu plein d'amour, non seulement pour nous, mais pour celles et ceux qui nous entourent. Et j'aimerais que pour terminer cette semaine de prière avec Anna et son message « Va, vis et deviens », passe la dernière, nous puissions reprendre tout ce que nous avons vécu avec Jonas et que ce cœur devienne un cœur qui s'ouvre vers les autres. Si vous regardez bien, il est composé de multiples personnes. Mais au lieu de s'agréger les uns aux autres, que nous puissions accepter la mission que le Seigneur nous confie, c'est d'aller vers les autres pour leur apporter cette bonté, cette tendresse, cet amour que Dieu leur manifeste. Alors j'aimerais vous remercier les enfants. Certains ont dessiné, ont colorié, ont partagé. Vous avez leurs dessins ici. Nous avons prié aussi pour des situations ou des personnes en particulier. Vous avez ces post-it qui sont là. Nous nous sommes investis, nous avons des post-it qui sont là. Nous nous sommes investis, nous avons partagé une prière conversationnelle hier. Que le Seigneur puisse accompagner chacun et chacune dans ce qu'il vit, dans son cheminement et dans sa redécouverte de Dieu. Que nous puissions maintenant prêter attention au texte qui nous sera lu par Chloé, 1 Samuel au chapitre 3, les versets 1er jusqu'au verset 10, qui serviront de base à ce qu'Anna nous partagera juste après.
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas encore fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas été encore révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. »
Merci. Merci, Chloé. Une semaine très intéressante, pour vous, je l'espère, mais pour moi, beaucoup, parce que j'ai appris à connaître tous ceux et toutes celles qui étaient là tous les soirs, et ça m'a vraiment aidée à me sentir plus intégrée dans cette communauté qui devient la nôtre. Et je vous en remercie. Et puis, au fur et à mesure que Philippe avançait dans son partage et qu'on vous proposait un petit peu notre vision, je me suis re-questionnée par rapport à ce titre de la semaine de prière, « Disciples en action ». Et je me suis interrogée en me disant finalement, souvent quand on parle de disciples en action, on voit l'action vers l'extérieur. Et c'est vrai, il faut sortir de ce cœur, il faut sortir de ce confort qu'on a ici tous ensemble pour aller vers l'autre. Mais lorsqu'on entendait cette histoire de Jonas et la manière dont elle nous a été rapportée, elle m'a interpellée parce que finalement, l'action, elle commence avant tout en moi. Elle commence en mon fort intérieur. Cette action, c'est l'action de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui m'interpelle. Et Jonas va être extrêmement interpellé. Je crois même qu'il avait l'habitude d'être interpellé parce qu'à la fin, il dit « Je savais bien ». Comme quoi, peut-être ce n'était pas la première fois qu'il vivait ce genre d'expérience de grâce, de voir un Dieu qui pardonne, au-delà du pardonnable peut-être. Et puis, peut-être que c'est aussi pour cela qu'il est parti très loin de Dieu, parce qu'il ne voulait pas revivre ça. Alors, comment terminer cette semaine? Peut-être en se posant cette question. Moi qui suis disciple, vous qui êtes disciple, ici, présent tous les jours, priant, engagé dans la semaine, comment est-ce que le Seigneur m'invite à rester en mouvement? Non pas un mouvement qui m'éloigne de lui, mais un mouvement qui accepte les interpellations qu'il met sur ma route. Un mouvement qui me laisse grandir encore et encore pour m'approcher un petit peu plus encore de sa perfection d'amour, comme on l'a vu ce matin encore dans le texte d'Éphésiens. Pour cela, je vous invite à revenir sur cette très jolie histoire que vous connaissez très bien, l'appel de Samuel. J'aimerais relever quelques points, parce que c'est une histoire que l'on connaît bien, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus, mais il y a quelques éléments qui vont faire écho avec ce qu'on a vu dans la semaine. Tout d'abord, nous avons un très jeune Samuel, face à un très vieux Élie. Samuel est jeune dans son apprentissage. Il apprend à servir le Seigneur et le texte dit même qu'il officie pour le Seigneur. Il officie devant Élie. Élie est le maître et Élie est le tuteur. Et puis, il y a entre ces deux personnages le Seigneur. Et le Seigneur, quelques indications nous sont données. Nous sommes dans une période difficile. Une période où la parole de Dieu, les visions, se font rares. À un point que même Samuel, qui pourtant est là depuis un certain temps, au service du Seigneur dans son temple, eh bien, ne l'a pas encore entendu. Pourtant, il le sert. Tout le temps, tous les jours. Il dort même, regardez ce détail incroyable, près du coffre de Dieu. Il y a là des indications qui nous montrent cette intimité qu'il y a entre Élie, Samuel et le Seigneur. L'Esprit est là. Ils vivent les uns avec les autres. Ils vivent les deux pour le Seigneur. La lampe de Dieu brille, elle n'est pas éteinte. L'Esprit est là. Et puis au milieu de ce cadre incroyable, idyllique, nous avons quelques indications qui apparaissent. Le Seigneur, le texte nous dit, Élie est couché. Il est couché à sa place. Et quelques versets plus loin, nous verrons que Samuel aussi a sa place. Mais ils sont couchés tous les deux. Et puis, le texte nous rajoute que Élie est particulièrement fatigué. Ses yeux sont quasiment aveugles. Il ne peut plus rien voir. Donc il a vraiment besoin de Samuel. Et je dirais même, avec la situation qui se passe après, qu'on pourrait presque dire que Élie est aussi non seulement aveugle, mais sourd. Il n'entend pas, lui, la voix de Dieu. Et dans ce contexte, avec cette situation de vie, Dieu intervient, Dieu parle, Dieu appelle. Alors là, nous avons l'appel, tout comme pour Jonas. Dieu qui parle aux disciples, Dieu qui veut me parler. Et ce qui est surprenant, c'est que celui qui entend n'est pas le plus ancien, n'est pas le plus aguerri, n'est pas celui qui a le plus d'ancienneté, de maturité peut-être, de connaissance. Non, celui qui entend, c'est le petit, c'est l'enfant. Et l'enfant, il est là et il est incroyable de réponse à l'appel. Pas comme Jonas, lui ne se lève pas pour partir à l'autre bout du monde. Lui se lève pour se précipiter vers ce qu'il pense être l'auteur de l'appel, Élie. Le texte est très beau. Il dit, il se lève, on imagine cet enfant déjà sur ses pieds, courant, nous dit le texte, pour aller vers Élie. Tu m'as appelé, as-tu besoin de quelque chose? Puis-je t'aider? Et face à cette spontanéité, à cette rapidité, à cette vivacité, nous avons un Élie qui est couché. Un Élie qui le rabroue un petit peu. Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et cela va se passer trois fois. Trois fois où Élie, le guide, celui qui a une meilleure connaissance de Dieu, va envoyer Samuel se coucher. Et Samuel, néanmoins, à chaque appel, ne se tourne pas de l'autre côté de l'oreiller, comme j'aurais pu le faire moi-même, peut-être, pour dire, c'est bon, je rêve. De toute façon, il va me dire, retourne te coucher. Non, Samuel, il se lève à nouveau, il se précipite au service d'Élie, et il lui dit, tu m'as appelé. Samuel ne se décourage pas. Samuel reste autant dans la spontanéité, dans le service, dans l'envie de répondre à l'appel. Et le Seigneur aussi persévère, trois fois. Dans la Bible, le chiffre 3 est très emblématique. Et le Seigneur, au verset 8, appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Lui non plus ne lâche pas le morceau. Lui non plus ne se lasse pas. Mais on se dit, au-delà de l'appel à Samuel, il essaie lui aussi peut-être de réveiller cet Élie qui est allongé, qui est couché, aveugle et sourd. Et là, une lumière s'allume. Élie tout d'un coup se dit, oh, mais c'est peut-être le Seigneur qui appelle ce garçon. Il était temps. Alors, comprenant cela, il va dire à Samuel, retourne te coucher. Mais s'il t'appelle encore, voilà ce que tu lui diras. Parle, Seigneur, moi, ton serviteur, j'écoute. Et c'est ainsi qu'avec l'aide d'Élie, Samuel entend à nouveau la voix du Seigneur. Et ce Seigneur qui, le texte apporte ce détail que je trouve incroyable et qui rejoint le message qu'on a essayé de partager toute cette semaine. Samuel alla se coucher à sa place. Et là, le Seigneur vint et se tint là. On a ici un Dieu qui, face à nos limites, face à nos incapacités à aller vers lui, face à nos statures couchées, habituées à notre petite place, à nos fonctionnements, ça s'est toujours fait comme ça, eh bien, c'est lui qui vient jusqu'à nous. Et j'aime ce Dieu-là. Parce que je peux lui faire confiance. Je ne suis pas dans la peur de ne pas être à la hauteur de l'atteindre. Je sais que lui m'atteindra toujours, où que je sois, allongé, sourd, aveugle, à ma place, contente d'y être, il viendra jusqu'à moi, inlassablement. Et donc Samuel répond, « Oui, Seigneur, ton serviteur est là, j'écoute. » On peut lire cette histoire en se disant « il y a un Élie, il y a un Samuel ». Mais je peux aussi lire cette histoire en me disant « et si Élie et Samuel étaient deux facettes de ma même d'une même personne ?» Deux attitudes, deux postures face à la voix et à l'appel de Dieu. Parfois, je suis Élie. Parfois, je suis celle qui est fatiguée, qui n'a plus envie de s'engager. Parfois, je suis celle qui trouve que l'Église est trop ceci ou trop cela, ou pas assez ceci ou pas assez cela. Parfois, je suis celle qui a envie de partir d'ici et de claquer la porte et dire plus jamais. Parfois, je suis si fatiguée, découragée. Parfois, je suis ce disciple, tout comme Jonas, qui n'a pas envie de partir en mission, qui n'a pas envie de s'adresser à des hommes méchants, qui l'agacent, qui ne méritent même pas qu'ils soient là, qui ne méritent pas que Dieu les aime. Mais vous avez vu ce que vous avez fait, ce dont vous êtes capable, et je dois, moi, vous annoncer la grâce. Mais vous ne la méritez pas, cette grâce. Je suis parfois celle qui a envie de lui redire exactement la même chose que Jonas. Voilà ce que vous méritez, la mort. Et puis, grâce à l'appel de Dieu, grâce au travail de l'Esprit, il y a cet enfant qui sommeille en nous, cet enfant spirituel, qui lui continue d'entendre cette voix et qui lui va peut-être accepter de quitter cette place figée. Mortifère, qui va accepter spontanément d'aller vers cette grâce et qui va dire « Je suis là, remue-moi, réveille-moi, réanime-moi, remets-moi sur ce chemin de l'annonce, de la proclamation de ta bonté. Oui, c'est vrai, il ne mérite pas, je ne le mérite pas, mais tu es un Dieu grand, un Dieu qui sauve, et ça, je veux y croire encore et encore. » Redevenir l'enfant, parole du Christ aux disciples. Redevenez comme des enfants, soyez prêts à accueillir le royaume comme l'un d'eux. Image très connue, image dont le texte biblique a souvent été interprété sous cet angle, redevenez comme un enfant. Non pas un enfant naïf, un enfant tel qu'on l'imagine et tel qu'on ne les aime pas, hein, un enfant qui râle, qui tape du pied, un enfant qui n'obéit pas. Non, non, pas cette image-là. L'image d'un enfant plein de joie, plein de confiance. L'image d'un enfant plein de joie, plein de confiance, tout comme Samuel. Un enfant qui sait s'émerveiller de tout. Un enfant qui sait accueillir la vie. Un enfant qui sait admirer la beauté des choses, s'extasier. Un enfant qui sait retenir son souffle, qui sait être là pendant quelques secondes à admirer une petite coccinelle sur une herbe. Et qui voit ces petits détails qui nous passent à côté. Alors oui, redevenons comme des enfants. Mais le texte permet aussi de voir non pas l'être, être comme des enfants, mais plutôt accueillir le royaume comme on accueille un enfant. Et là, il s'agit d'accueillir celui qui peut nous déranger. Il s'agit d'accueillir celui qui va nous obliger à faire un bout de chemin différent. Vous êtes peut-être parent, moi je le suis, et une des choses que ce rôle m'a appris, c'est qu'il faut apprendre à écouter. On se remet beaucoup en question, on arrête nos principes des fois pour aller au-delà. On est obligé de mettre de l'eau dans son vin, si vous me permettez l'expression. Oui, cette posture-là est une posture d'ouverture, une posture qui accueille l'inconnu qu'est l'autre, cet inconnu qui se révèle à nous. Qui accepte le royaume dans toute sa grâce, qui accepte d'être dérangé pour avancer un petit peu plus vers ce jour nouveau. Alors accueillir un enfant, accueillir le royaume devient un lien dynamique. Nous sommes en marche, nous passons d'un état statique, allongé, assis. Le Seigneur nous met en marche vers celui qui appelle, vers une nouveauté de vie. Et alors, on est dans la joie, dans la confiance, et on attend avec impatience ce qu'aujourd'hui nous propose. Soyons donc des tout-petits agissants, pleins d'énergie, des disciples en mouvement, en action. Soyons non pas des disciples ternis, fatigués, mais si nous le sommes aujourd'hui, alors laissons l'Esprit raviver Samuel, le Samuel qui est caché au fond de nos cœurs. telle est ma prière, pour vous, pour moi, pour nous tous. Amen.